dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Duo, Boris Spino, prise de son assurée ce soir par Jean-Michel Bernot, réalisation Rafik Zénine. Ce soir, Anaël Pija et Yasmini aussi se font face à notre affiche Afrique Capitale à la Grande Halle de la Villette et Afrique Capitale vers le Cap de Bonne-Espérance à Lille. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition Maria Lasnik jusqu'au 16 juillet à la Galerie Municipale d'Athènes et Portrait de Ville Addis Ababa de Guillaume Beaune, cette édition Bipole. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans le petit salon pour parler de la manière dont fonctionne le musée de Grenoble, pour surtout parler de la circulation des œuvres qu'il a mises en place et pour poser cette question, pourquoi tous les musées ne font-ils pas la même chose? Et puis encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Taipei Story dont nous parlions hier soir, film d'Edward Yang qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Exposition Afrique Capitale à la Grande Halle de la Villette se situe dans le cadre du festival 100% Afrique qui inclut aussi quantité de spectacles de toute nature pour offrir pendant 2 mois un voyage à travers les métropoles africaines. Afrique Capitale réunit donc à Paris une 60aine d'artistes contemporains pour une exposition dont Simon Djami est le commissaire. Alors, commissaire que bien connu du monde de l'art, il a été notamment directeur artistique des rencontres de Bamako, la Biennale africaine de la photographie. Il a conçu aussi Africa Remix, qui a été présenté dans de grandes villes en Europe et même jusqu'à Tokyo et Johannesburg, en passant par Paris. Il a été aussi commissaire, co-commissaire du premier pavillon africain à la 52e Biennale de Venise. Il a participé à l'élaboration de la foire d'art contemporain de Johannesburg. Il est commissaire de la Biennale de Dakar. Bref, je pourrais encore ajouter pas mal de choses qui expliquent toutes qu'il ressemble fortement à l'homme de la situation pour cette exposition qu'il a imaginée comme la ville de toutes les villes pour la première exposition d'ampleur consacrée à la création contemporaine africaine en France depuis, c'est vrai, une bonne dizaine d'années. Sangaré qui nous introduit dans cette exposition, elle qui était en concert à la Grande Halle de la Villette le 31 mars dernier, il y a quelques jours à peine, cette diva malienne, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses avec 100% Afrique. On se concentre évidemment sur l'exposition et on entre en suivant les pas de Yasmine Youssi qui me regarde avec tant d'intensité que je suis obligé de donner la parole en premier. Vous allez commencer, ce sera un coup d'un... Un coup l'une, un coup l'autre.
Je me consolerai tout à l'heure.
Je pense que vous arrêtez quoi vous consoler. Non pas que vous soyez tout à fait triste, Anaël. Rassurez-moi. Sinon, oui. Je commence par vous.
Oui. Non,
non, mais parce que, en fait, chacun sait, les auditeurs habitués à cette émission, que Yasmine aussi a 5 fiches. Normalement, pour pas qu'une exposition.
Et là, je vous ai perdu.
Et ce soir, elle en a 6.
Mais oui, parce qu'elle est extraordinaire, cette expo. C'est pour ça qu'il m'en faut 6.
Eh ben voilà. Tout est dit. Anaël, déjà, à vous la parole. Bon, non, allez. Alors, fiche numéro 1, qui est toujours l'intro.
Écoute, l'intro. Toujours. Écoutez, moi, c'est... une exposition qui est nécessaire, qui est salutaire, qui est galvanisante, parce que quand vous sortez de là, vous vous sentez si riche de tout ce que vous avez découvert. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Vous aviez raison tout à l'heure de mentionner tout ce qu'avait fait Simon de Gemmi.
Et quand j'en ai laissé en route. Hein,
oui, parce qu'on peut aussi rajouter qu'il a été cofondateur d'une revue absolument capitale qui est la Revue Noire. Voilà. Et je me suis rendu compte pendant que vous énumériez tout ça que, ben, heureusement que Simon de Gemmi était là parce que, depuis Africa Remix, qui avait été, alors là aussi, ça avait été vraiment un coup de tonnerre, parce que c'était la première fois en France qu'on nous montrait dans une grande institution qui est Beaubourg que finalement l'art africain ne se résumait pas à à un art du recyclage réalisé par des artisans sur les marchés de Bamako, de Dakar, mais qu'il y avait une scène artistique extrêmement riche, extrêmement dense, qui avait beaucoup de choses à dire.
Parce que généralement, il y avait 3-4 noms qui cachaient l'immense forêt.
Et depuis 2005, je réfléchissais à ça, je me disais que depuis 2005, on n'avait pas vu grand-chose depuis à Paris, et que heureusement que Simon de Gemmi était là pour nous donner des nouvelles, en fait, de ce qui se passe. Et cette exposition
des
est dans la
neuves.
Des nouvelles neuves.
Non, mais c'est vrai, c'est ça.
De là-bas. et que si on reprend là où on a laissé Africa Remix, on se rend compte, là c'est la nouvelle génération que nous présente Simon de Gemmi. Ceux qui l'avaient révélé se sont installés, ont pris de l'importance, peut-être plus ailleurs qu'ici, parce qu'on se rend compte de l'Afrique, on ne connaît pas grand-chose en France. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, il y a une pièce du Kenyan Ato Malinda qui présente une carte de l'Afrique et en polystyrène. Et après, on vous donne des cartes à jouer sur lesquelles il y a le nom des pays. Et ben, je vous mets au défi.
Une installation interactive.
Voilà,
on peut mettre les cartes où on veut.
On peut les mettre où on veut et en même temps.
Moi, j'ai rebaptisé certains pays.
Je suis pas sûre que tout le monde soit à même de placer tous les pays.
Moi, tout était bien placé.
Ah non, mais vous êtes exceptionnel.
Non, quand je suis passé, c'est pas moi qui les ai mises.
C'est pas vous.
J'ai remarqué qu'elles étaient toutes bien placées.
Voilà, et ça, et vraiment, pour le coup, là, on reprend le fil de ce qui nous avait été raconté dans Africa Remix. Alors surtout, n'y allez pas en pensant que vous allez voir une exposition d'art africain. C'est une expo d'art réalisée par des artistes d'origine africaine, d'origine au sens large. Ça peut aussi bien être des artistes qui sont nés en Occident ou ailleurs, de parents originaires d'Afrique, ou qui sont descendants d'Afrique, que des gens qui travaillent en Afrique, travaillant dehors de l'Afrique. Voilà, c'est vraiment au sens large. Et pourquoi ce n'est pas une exposition d'art africain, ce qui fait la spécificité, je dirais, de ces artistes. Je ne vais pas reprendre ce que je dis toujours.
Parce que art africain, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire.
Est-ce qu'on dit art européen ? Non, est-ce qu'on
dit art occidental ?
Oui, l'art occidental, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui.
Ça ne veut plus rien dire. Moi, ça ne veut peut-être plus rien dire, mais je trouve qu'il y a, par rapport à l'art occidental, je vais reprendre ce que je dis souvent, c'est qu'on arrive un peu en bout de course d'un art conceptuel.
Oui, mais ça, c'est votre théorie, mais on n'est pas obligé de la partager, Yasmine.
On n'est pas obligé de la partager. Mais moi, ce que j'ai trouvé formidable avec ces artistes, c'est que ce ne sont pas des artistes qui se regardent le nombril, ce sont des artistes qui regardent le monde, qui l'embrassent, qui se définissent aussi par rapport au monde, à l'ensemble du monde, et que c'est ce qui fait leur force. Simon de Gemmi, il y avait eu une rencontre qui avait été organisée avec Simon de Gemmi avant la présentation de cette exposition. Il disait que le continent qui était le mieux à même d'affronter la mondialisation, c'était justement l'Afrique, parce que les peuples, les pays, les cultures avaient cohabité avec d'autres cultures, en avaient subi l'influence de manière forcée, avaient digéré ça, pris, rejeté, que c'était quelque chose qui avait déjà eu lieu, que les gens parlaient la plupart du temps au minimum deux langues, leur propre dialecte et la langue du colonisé, et que c'est ce qui fait aujourd'hui la mondialisation, et que finalement c'est peut-être probablement le continent qui est le mieux armé pour ça.
Alors je sais pas si à quelle fiche je vous arrête, mais c'est vrai que j'avais déjà envie quand même de semer un peu de
le
débat.
Trouble.
Non, parce que vous dites ils se regardent pas le nombril. Je pense qu'il faut absolument se regarder le nombril pour savoir où on est dans le monde, et qu'ils le font justement très bien. Moi je trouvais l'exposition absolument formidable, que c'est important de savoir où est son nombril pour se situer. Non, mais je pense à cette œuvre, moi,
ils parlent pas eux-mêmes,
que je trouve absolument géniale de Simon et là je vais avoir du François-Xavier Gbray,
oui,
qui écrit en chinois, Je suis africain.
Oui.
Et on voit absolument la. Alors c'est en néon, c'est en en maquette, c'est en carton, en carton, etc. On voit à quel point c'est tellement pertinent, tellement simple et en même temps tellement, je trouve, d'une justesse absolue. On sait bien que la place que la Chine occupe aujourd'hui dans l'espace africain, notamment subsaharien, enfin essentiellement subsaharien. Et voilà, ça nous parle, plastiquement c'est magnifique, et ça nous délivre un propos extrêmement juste, et ça parle absolument de celui qui est l'auteur de cette œuvre. Je prends cet exemple-là, c'est vrai que j'ai fait un peu une fixette sur cette œuvre, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dont je voudrais parler ici, qui nous disent à quel point ce sont des artistes qui savent absolument où ils sont, justement, dans ce monde, ce qui n'est peut-être pas le cas
dans
en
ce
Occident.
Monde. Voilà, alors dans ce monde, plus, c'est ça, c'est, je crois qu'on dit la même chose.
Oui, alors on dit différemment,
et on
enrichit le propos, mais
je parle déjà, comme vous.
Pour continuer dans cette idée, à la grande halle de la Villette, on se trouve à Paris. Et peut-être faut-il préciser que ce printemps est vraiment, dans beaucoup de lieux consacrés à l'art, totalement aux couleurs du continent africain. Y a énormément de manifestations, certaines qui ont ouvert, d'autres qui vont ouvrir. Je ne vais même pas en commencer la liste, tellement elles sont nombreuses. Les Galeries Lafayette, la Fondation Vuitton, la Foire Art Paris.
Dans cette émission, dans les semaines.
Absolument. Et en fait, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces choses se produisent en même temps, parce que ça n'est pas comme si c'était une saison, la saison de la Colombie ou la saison, les saisons qui sont organisées par les ministères de la culture, sont concertées par les États, mais surtout elles concernent des pays, elles concernent pas un continent. Et comme vous le disiez, Arnaud, l'Afrique ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Enfin, qu'est-ce que...
Et en fait, il y a pas un art africain. C'est ça que je voulais dire.
Oui,
l'Afrique,
et puis,
ça existe.
L'Afrique, ça existe, mais l'art africain,
ça veut rien dire.
Bien sûr. En tout cas, je trouve que... et au fond, pourquoi tout ça arrive à nous aujourd'hui? Alors peut-être que...
Quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons, pour se poser
Quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons? Je pense que parmi les raisons, et assurément bonnes, il y a le fait que là-bas, beaucoup de gens travaillent à montrer cet art, à faire sortir cet art, à créer des biennales, des événements, des lieux d'exposition, des résidences, et qu'il y a toute une jeune génération, là non plus je ne vais pas en énumérer la liste, qui aujourd'hui... créer des endroits et créer des lieux pour montrer cet art. Et que je pense que c'est lié au fait que ces choses-là arrivent à nous aujourd'hui. D'autre part, comment, au fond, est-ce que il y a évidemment dans toutes ces expositions un côté discrimination positive qui pourrait être un peu embarrassant. Mais au fond, je relisais des entretiens avec Jean-Hubert Martin, le commissaire de Magicien de la Terre en 89, qui déjà en 89 disait mais il faut bien commencer quelque part. Si on s'était posé ces questions, il n'aurait jamais fait Magicien de la Terre, disait-il à l'époque. Et je pense que pour Simon Djamy, c'est la même chose aujourd'hui. Et je trouve que sa réponse à toutes ces questions qui peuvent se poser dans ce champ, est assez maligne parce que il répond avec la ville. Son exposition concerne beaucoup de pays d'Afrique, mais si on regarde bien, finalement, les nationalités des artistes sont écrites en tout petit, c'est pas du tout ça la question. On regarde vraiment des œuvres et des artistes. Je trouve ça intelligent, très intelligent à beaucoup d'égards. D'abord, on se trouve dans le quartier de la Villette, et quand on arrive à la Villette, on arrive dans un Paris qui est un vrai Paris, qui est un quartier qui est très humain, qui est très habité, qui est très qui est au bord du périph, mais qui est bon.
Donc, vous avez vu le monde qu'il y avait sur les pelouses ce
la
week-end,
question,
vous
c'était
y étiez aussi.
Sidérant,
hein.
C'était sidérant, c'était
tout le
vraiment,
monde,
absolument, et jusque tard le soir.
Oui.
Donc Paris, de ce point de vue-là, la ville, finalement, la ville dont nous parle Simon Djamy dans l'exposition, c'est pas la ville africaine, c'est vraiment la ville. C'est-à-dire, peut-être, alors là, on rentre dans l'exposition, on rentre dans cette grande halle de la Villette par une sorte de grande rue autour de laquelle sont groupées des petites maisons qui accueillent chacune une ou plusieurs œuvres. Au milieu, il y a une sorte d'agora avec une grande œuvre de Youssef Limoud qui est une sorte d'agrandissement d'une maquette d'Alep. Donc ça, c'est la ville... délabré, un chantier
détruite.
Bombardé, détruite. Sur le côté, il y a un minaret de Moataz Nasr, qui évidemment est un minaret tout à fait recomposé, avec du verre pilé, avec du cristal, avec des morceaux de bois de récupération. On continue à avancer, on monte sur une colline depuis laquelle on voit une très très belle œuvre, une vidéo de William Kentridge en 8 écrans qui montre une procession, qui est en fait une danse macabre dans laquelle on voit défiler en noir et blanc sur des écrans des malades, des morts, des squelettes, au son d'une musique dont on ne sait pas très bien ce qu'elle signifie, mais dont on, au premier abord, mais dont on comprend très vite qu'elle a vraiment une dimension tragique. Donc en fait, la ville qu'il nous montre est une ville à la fois très vivante et il y a aussi le centre-ville qui, quand on avance, plus on avance dans l'exposition, plus le maillage urbain finalement se resserre et plus la nature des œuvres qu'on voit, l'œuvre dont vous parliez là-bas au fond, Je suis un Africain de François-Xavier Bray, et plus les œuvres se font politiques et se font virulentes. C'est là aussi qu'on trouve l'œuvre de Leïla Alaoui.
Le triptyque vidéo
qui s'appelle Crossing sur les migrants. Donc voilà, il y a différents endroits dans cette ville. Il y a aussi des ruelles sombres, il y a des coins un peu déserts, ce qui est assez agréable aussi parce qu'on peut reprendre sa respiration. Il y a l'évocation de la foule et l'évocation de la solitude. Et dernière chose avant de continuer, il y a aussi.
Dernière chose avant de continuer, la bonne salle.
Enfin, en tout cas,
avant d'échanger la parole.
Une chose qui est assez remarquable, c'est le bruit de la ville dans l'exposition. Et en fait, peut-être c'est par là qu'on aurait pu commencer.
Bon, bah alors recommençons. Fiche numéro 3.
Non, la scénographie, elle porte totalement le propos.
Elle est très intelligente,
elle
cette scénographie.
Elle est très, très, très intelligente.
Alors, il faut que je trouve le nom du scénographe.
Mais moi, je me suis retrouvée dans une ville africaine, c'est-à-dire avec ce bruit, c'est-à-dire le bruit de la rue, il y a des installations sonores, le fait qu'il faut regarder partout, parce que vous êtes toujours cueillis par surprise, au sol, au plafond.
On a peur d'en rater, en plus.
Oui, on a peur d'en rater.
On fait plusieurs fois le tour, elle n'est pas immense, hein, d'ailleurs, l'exposition.
Non,
elle
non, est, mais elle est tellement riche.
Il faut aller dans tous les
recoins. Il y a Bilex, le philosophe.
Il y a lui, il y a les maisons de Pascal Martine Taillou qui peuvent vous tomber aussi sur le coin du nez, enfin qui sont accrochées au plafond. C'est ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette expo, c'est qu'elle non seulement elle permet de découvrir de très très bons artistes, l'état du continent aussi, des pays dont on n'entend plus parler. Je veux dire. Qui sait à quoi ressemble Khartoum aujourd'hui? Qui sait ce qu'est ce pays aujourd'hui? Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec, donc c'est au Soudan, vous retrouvez avec des photos de Alaa Khair, qui est née il y a 32 ans. Et qui y retourne après 20 ans de guerre, qui photographie cette ville qui a l'air déserte. Alors, je n'ai pas très bien compris si c'était au petit matin, mais en tout cas, elle est déserte. On sent qu'il s'est passé quelque chose d'assez terrible. On sent qu'il y a quelque chose de confisqué dans cette ville. L'architecture, moi, c'est marrant, quand je l'ai regardée, je me suis dit, au début, j'ai pas percuté, je me suis dit, tiens, on dirait l'architecture des villes de banlieue du Maroc. Une espèce de... C'est une sorte de mondialisation de l'architecture dans ces pays-là. Voilà, moi, des nouvelles du Soudan, je n'en avais pas eu depuis que j'avais 12 ans. Ensuite, il y a...
C'était hier.
on parlait de Bray, des photos de Bray. Vous voyez, par rapport à Africa Remix, c'était un thème qui n'était absolument pas abordé à ce moment-là, la présence de la Chine.
Oui,
qu'on voit là, justement, avec toutes des fiches de vocabulaire écrites avec les mots en français et les mots nécessaires qu'il faut connaître, que les Chinois doivent connaître. Ou que les francophones doivent connaître pour pouvoir communiquer en français, parce que aujourd'hui c'est incontournable. On peut suivre aussi, il y a des artistes dont on peut suivre l'évolution. Par exemple Nabil Boutros, qui est d'origine égyptienne.
Magnifique, moi, cette installation.
Oui, elle est superbe, cette installation. Moi, je connaissais de Nabil Boutros ses photos uniquement, hein, tout le travail en noir et blanc qu'il a fait. Et là, je le découvre à travers cette installation d'un nuage.
Qui de loin nous apparaît comme un
nuage.
Voilà,
comme un nuage. En fait, il est figuré, ce nuage, à partir de sacs en plastique qui ont été gonflés, et surtout c'est un nuage qui traverse un cercle en fil de fer barbelé. Je retrouve aussi, là c'est fabuleux aussi, cet aller-retour entre artistes qu'on découvre et artistes qu'on continue de suivre, jamais en vous présentant les pièces qu'on connaît. Moi, je ne connaissais pas, et je vais en reparler après, parce que je ne connaissais pas le travail de Guy Tilim, qui est sud-africain, qui est un photographe sud-africain, qui continue d'explorer comme ça les villes d'Afrique et l'architecture moderniste des villes d'Afrique, et qui là est allé à Addis Abeba en Éthiopie, dont je reparlerai un peu après, et j'ai retrouvé cette ville qui est quand même assez unique. Et on retrouve la patte de Guy Tillim, c'est-à-dire d'être au cœur des gens, d'être au plus près. Vraiment, on a l'impression d'y être. Et puis, bien sûr, ce sont des découvertes. Je ne sais pas si vous connaissiez auparavant cet artiste d'origine ghanéenne, Godfried Donkor, qui est né au Ghana en 1964, et qui réalise des collages de peinture. Alors lui, ces collages, il prend de très très grands panneaux. Là, je pense pas me tromper en disant que c'est des panneaux qui ont à voir avec qui donnent des informations financières, et sur lesquels il colle des dessins qu'il a fait, enfin des peintures à l'huile de lutteurs sénégalais. C'est un thème qui revient souvent, ça, et en photo, et en pas dans cette expo en particulier, mais dans l'art venu d'Afrique, et des athlètes guerriers. Il y a aussi une fabuleuse découverte pour moi, ce sont les photos en noir et blanc de cette Marocaine qui s'appelle Safa Mazi, et qui photographie des nus de femmes en noir et blanc, et c'est des nus en mouvement, mais on a l'impression que c'est une lutte des corps pour sortir d'un emprisonnement, pour sortir d'un étouffement. C'est quelque chose de très très fort. Ça m'a fait penser un peu à Antoine d'Agata dans cette manière de se photographier soi-même, pas dans la marginalité, mais dans l'étouffement, vraiment.
Vous connaissez, vous, Franck Abubakar Fani, photographe ivoirien?
Non.
Qui a photographié
les villes américaines?
Non, les vitrines de magasins.
Les vitrines de magasins et ses photos de coloration
aux États-Unis. Oui, de nuit. Ouais. De nuit, où c'est là où vous avez l'impression de vous balader dans une ville la nuit.
Extraordinaire. Ouais. Moi, je ne connaissais pas cet artiste.
Moi, je ne connaissais pas et je ne savais pas où c'était, moi.
Après,
il y a une belle ville avenue qui est troublante.
Oui, il y a le Belleville Avenue et là, on a.
Pour citer encore quelques noms. Anaëlle Pija.
Je voudrais insister quand même sur une chose. Je suis moins enthousiaste que vous sur les photos de Safa Mazir, la représentation du corps féminin. Je trouve qu'il y a dans certaines œuvres quand même une forme de, ce qui n'enlève pas que je trouve l'expo féminin, mais une forme de littéralité un peu sur le nuage. Je suis un peu moins enthousiaste que vous aussi, le ciel qui va nous tomber sur la tête. Bon. Mais surtout, il y a une chose. C'est des nuages en sac en plastique qui traversent un fil barbelé.
Il y a le lointain et le proche.
C'est la manière dont le nuage domine ce paysage, absolument. Non, ce sur quoi je voulais insister, c'est aussi la violence qui transparaît dans certaines œuvres, et particulièrement dans la section photographique que vous avez.
Pour moi, il y a beaucoup de violence dans l'œuvre de Safa Mazir.
Oui, mais bon.
Passons à autre chose. Non, parce que le temps file.
Ce que je voulais souligner, c'est encore une fois donc cette violence, et je me suis interrogée en fait sur la question de la spiritualité. Au fond, on parle beaucoup de spiritualité à propos de l'Afrique. Alors peut-être que ça fait partie d'un certain nombre de clichés, et je parle évidemment en non spécialiste, mais cette question dans Magicien de la Terre, qui passait par la question de la magie, était très présente. Là, c'est en quelque sorte l'anti-magicien de la Terre. Ça veut pas
dire qu'on a toute l'Afrique et on n'est plus, il y a 35 ans,
absolument, passé. Absolument. Hein. Mais justement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie intérieure et qu'il n'y a pas de mondes intérieurs dans cette exposition.
Mais c'est sûr que le rapport à la spiritualité ne peut pas être le même au Maroc, exactement, qu'en Namibie et en Afrique du Sud.
D'une part, et puis d'autre part, je pense qu'elle passe aussi par d'autres canaux. Elle passe par exemple par la poésie de Poumé Bilex, qui fabrique des objets complètement fous, comme des chaussures croissantes ou bien un fauteuil, feuille. Elle passe aussi par une chose étonnante, qui est le bureau de Jean Lamort. Ouais. Jean Lamort est un Américain qui a vécu en France et au Sahara occidental. Si je ne me trompe pas. Et Simon Djamil lui a demandé de faire venir dans l'exposition son bureau. C'est un artiste qui a fait des objets d'une très grande diversité. Et finalement, c'est tout son univers personnel qui se transporte dans l'exposition et qui donne, je trouve, par d'autres canaux une spiritualité qui est assez intéressante.
Mais là, je vais rejoindre Yasmine, elle... ça peut un peu trop conceptuel et ça se donne pas assez, pas très facilement.
À le bureau de Jean Lamar.
Ah ouais, je trouve que c'est quand même pas ce qui est le plus évident.
Non,
dans une exposition qui, et alors, c'est bon ou pas bon, c'est dans les cas, mais il y a quand même très peu de cartels, très peu d'indications. Il faut faire son travail avant, après. Et donc, typiquement,
je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que ça donne à l'exposition, au contraire, différentes tonalités, différents registres entre lesquels il est bon de se promener, enfin, entre lesquels il est bon de gravir les marches.
Intellectuellement,
de
je le comprends, mais émotionnellement, je l'ai pas vraiment ressenti et vécu comme ça.
Ah, moi, je l'ai vraiment ressenti en regardant le rapport.
Bémol
pour bémol, absolument.
Voilà, je suis un peu basique. Avant de continuer. Le nuage, ça marche. Avant de continuer, parce que je sais qu'on avait dit qu'on parlerait davantage de la Villette que de la gare Saint-Sauveur, mais quand même, le temps file. Mais on comprend bien, et on le redira encore, que cette exposition à la Villette, elle est que jusqu'au 21 mai, c'est pas si long.
Non.
Il ne faut pas perdre de temps, et puis on peut y aller une ou deux fois. Même si elle est relativement courte, moi je pense que j'y retournerai, parce que j'ai envie de revoir
avec les
œuvres.
Enfants aussi.
Avec les enfants.
Vraiment avec les enfants.
Avec tous les enfants. Les vôtres, les miens, ceux d'Anaël.
Je les prends.
D'accord. Bon, on va faire ça. En tout cas, pour l'instant, pour ce premier volet d'Afrique Capitale, c'est à la Grande Halle de la Villette et ça dure jusqu'au 21 mai.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
À suivre dans la dispute Marielle Hassing, Guillaume Beaune et Afrique Capitale suite à Lille. Avant cela, nous allons suivre Lucille Como dans le petit salon. Et profitez-en bien, auditrices et auditeurs, dernier de la saison pour Lucille, qui nous quitte ce soir après cette émission pour aller finaliser un heureux événement. Ça fera encore plus d'enfants à venir voir cette exposition Afrique Capitale. Bonsoir, Charles-Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, voyons voir. L'évidence, non, des expositions hors les murs, tel est le thème de votre dernier petit salon de la saison, Lucille.
Oui, il y a quelques semaines, je parlais des différentes initiatives prises ces dernières années par les musées de province pour attirer de nouveaux visiteurs dans leurs murs. Et j'avais été frappée par la simplicité et la grande cohérence politique d'une initiative en particulier, celle mise en place par le musée de Grenoble, donc, qui consiste à faire circuler ses œuvres grâce à un vaste programme d'expositions hors les murs. Libération qui publie ces jours-ci régulièrement des articles sur des lieux culturels français, un peu pour tenter de contrer le silence assourdissant de la campagne présidentielle sur ces questions, a consacré notamment un reportage le 26 mars dernier à cette institution, sous la plume justement de notre collaboratrice ici à la dispute aussi, Elisabeth Franck-Dumas, sous le titre « À Grenoble, les collections du musée en vadrouille ». Comment fonctionne ce programme? Alors, il a été mis en place en 2003, donc, fait déjà longtemps, par Guy Tosato, alors fraîchement nommé à sa direction. Et depuis, une dizaine d'expositions ont été organisées dans des bibliothèques, dans des centres sociaux ou des maisons de la jeunesse et de la culture, dans la ville de Grenoble et dans ses environs. Un exemple emblématique, en 2015, l'exposition « Démons et merveilles » réunissait dans une bibliothèque du quartier La Villeneuve des œuvres des artistes Annette Messager, Philippe Favier et Gilles Ayot. On pouvait y voir notamment une œuvre d'Annette Messager de 83, le dragon à la queue nouée, que le musée de Grenoble venait tout juste d'acquérir, un geste fort donc de la part du directeur Guy Tosato, que de le montrer pour la première fois dans une petite bibliothèque de quartier. C'était un geste d'autant plus fort que le quartier de la Villeneuve est un lieu sensible, marqué par des émeutes en 2010 après la mort d'un habitant dans une course-poursuite avec la police, un des événements qui avait inspiré le fameux discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, et qui avait valu à la cité de l'Arlequin, où se trouve précisément cette bibliothèque, d'être rebaptisée dans le journal Valeurs Actuelles, forteresse pour les voyous. L'exposition Démons et Merveilles avait attiré quelques 2000 visiteurs, chacun reparti par la suite avec son billet gratuit pour le musée, puisque tel est le principe simple de ce programme. Quand on va voir une exposition hors les murs, on peut aller par la suite visiter gratuitement le vaisseau amiral. Le musée de Grenoble en plus est un grand musée, il possède aujourd'hui, comme le rappelle l'article de Libération, le deuxième plus grand fonds d'art moderne en France. Il fait figure de pionnier en matière de démocratisation culturelle, comme on dit, puisque depuis ce type d'initiative a un peu essaimé. Et
Elisabeth Franck-Dumas parle de ses expos montées en prison, dans un lycée, dans une salle des mariages par le Centre Pompidou depuis 2011. Le Louvre avait organisé aussi en 2011 une exposition à la Maison Centrale de Poissy, mais c'était des copies de toiles. Il avait aussi prêté des facsimilés à quelques écoles classées en zone prioritaire. Des copies, donc ce n'est pas exactement la même chose. Et surtout, il n'était pas question de donner des billets gratuits pour que les gens viennent ensuite voir les originaux. Pourtant, ce ne sont pas des programmes très chers, comme le dit lui-même Guito Sato, les coûts de transport et d'assurance sont absolument minimes. Comment expliquer donc que de tels programmes ne soient pas systématiques, voire obligatoires dans les grands musées français ?
Voilà un projet pour le prochain ou la prochaine mise à la culture, rendre obligatoire ce type de projet. Ce sera mon premier point, le premier point de mon programme.
Je vote.
Vous votez pour moi, Naël, votez pour moi.
Toujours pour vous.
Lucille. Osier ? Non. Bon, très bien. Eh bien, je crois que ce petit salon est réglé. Donc, Grenoble, on en parle souvent de cette ville qui, effectivement, alors, c'est un peu paradoxal puisqu'on sait que le nouveau maire élu a fait de la suppression de beaucoup de subventions culturelles, hein, de ses chevaux, un de ses chevaux de bataille. Le pluriel prévaut ici.
Bien.
J'ai quand même pris mon élan, hein, pour sauter cet obstacle, justement. Et malgré tout, il y a quand même Guito Sato, il a depuis bien longtemps, il fait un travail remarquable, tant de commissaire d'exposition que de directeur ici, Anaël Pigeat.
À vrai dire, je me suis demandé pourquoi on parlait. Enfin, bien sûr que le musée de Grenoble est. Pourquoi on parlait du musée de Grenoble ? Parce que il y a quand même beaucoup de musées en France qui font circuler leurs collections, et il y a tout un tas d'exemples qui me sont venus à l'esprit, à commencer par le Centre Pompidou Mobile, certes qui s'est arrêté, mais qui était quand même une initiative de cet ordre puissance même plus, puisqu'il s'agissait d'une structure mobile qui visait à faire circuler les œuvres.
Mais et qui puis, s'est arrêté, c'est quand même le point important.
Tout à fait. Mais justement, évidemment, il y a aussi les FRAC dont on a parlé dans une émission. Mais les FRAC, c'est leur mission, tout à fait.
Le Fonds régional art contemporain.
Mais alors,
protégeons-les.
Il y a aussi tout un tas d'actions menées par des structures liées à l'art, comme la Biennale de Lyon, qui font des travaux de médiation extrêmement importants. Tout le programme Veduta, par exemple, consiste à aller accrocher des œuvres chez l'habitant, chez des gens. Alors, évidemment, tout ça, c'est formidable. Enfin, cette initiative du musée de Grenoble, c'est formidable. Toujours dans ma question, pourquoi parle-t-on du musée de Grenoble ? Peut-être faut-il souligner que, vous le disiez, Lucille, c'est les deuxièmes collections les plus importantes. Mais effectivement, ce musée de Grenoble a des collections qui lui permettent de cette circulation. Et il a une histoire qui est absolument incroyable. Et alors, j'ai regardé l'histoire du musée de Grenoble, qui est assez étonnante, en fait. Il y a un artiste conservateur qui a exercé ses fonctions pendant 30 ans, entre 1919 et 1949, qui s'appelle Andri Farsi, et qui a constitué tout le démarrage de ses collections modernes et qui a rassemblé de manière vraiment pionnière. C'est en particulier premier Picasso, peut-être nos sources. c'est le premier musée à avoir montré un Picasso dans les collections françaises en 1921. C'est quand même pas mal. Donc, en tout cas, le musée de Grenoble, visiblement, a des collections qui lui permettent de faire circuler les œuvres. Peut-être tous les musées de France n'ont-ils pas autant de collections qui leur permettent à ce point de faire circuler.
Non, mais les collections sont riches. Les musées nationaux sont là aussi pour les prêter, pour les faire
alors,
circuler.
Alors ensuite, l'autre chose que je
voulais... Pas assez.
Orsay
pas assez.
En fait, ce que je voudrais ajouter, c'est que peut-être ces politiques sont essentielles, mais elles sont essentielles dans la mesure où c'est un pas pour venir au musée à Paris. Parce que, au fond, c'est quand même le fait de se déplacer et de rentrer, de pénétrer dans la maison musée, c'est ça l'enjeu de toutes ces politiques. Et en fait, tout ça me semble passionnant dans la mesure où c'est dans cette direction et dans cette perspective que l'on se place
et que
l'on déploie tous ses efforts.
Le constat reste toujours le même, la difficulté effectivement à franchir seuil des
musées. C'est-à-dire non seulement d'avoir accès à de vraies œuvres et non pas à des œuvres sur iPad là aussi les choses ont été évoquées dans l'émission
ou
des reproductions dans des cours, mais des vraies œuvres au musée.
Oui, bah, on est d'accord.
De manière ultime.
Moi, l'idée que j'aime beaucoup dans ce que vous venez d'évoquer, c'est le fait d'offrir, de donner un billet pour aller gratuitement au musée.
Dans le vrai musée.
Dans le vrai musée. C'est vrai que cette idée, idée de
essentielle.
De prêter des, enfin, de faire circuler les œuvres, tout le monde tourne autour. Quand même, il faut le dire, tout le monde tourne autour. Le centre Pompidou Mobile, c'était ça, ça n'a pas marché. Orsay, quand même, prête aussi pas mal les œuvres et fait des expositions pour rayonner. Le centre Pompidou, là encore, pour ses 40 ans, qu'est-ce qu'il fait d'autre que ça? Au risque de choquer, je pense que nous avons la chance en France d'avoir un maillage très très dense de lieux culturels. Je pense pas qu'on puisse parler de désert culturel en France, malgré ce
mais
que
vous
disent certaines...
personne, là, on le sait. Bon, que c'est
vous
pas
écoutez
le cas.
Les candidats, ils vous sortent, il y en a plein qui vous sortent
ça.
On les a interrogés là-dessus,
j'ai dû rater quelque chose,
à Télérama. Parler de désert culturel, c'est une bêtise. Par contre, on n'arrive toujours pas à faire venir les gens, malgré ça. Et ça, c'est vraiment une très très belle initiative. Mais c'est vrai que le musée aussi a une histoire. Et comment faire pour développer ça, pour faire en sorte de prendre les gens par la main et de faire tomber cette barrière.
Annaëlle.
En fait, cette question va évidemment avec la question de la médiation et aussi de tout le travail qui est fait dans les musées pour faire venir les visiteurs et toutes sortes de visiteurs. Et en fait, je ne sais pas si on a toujours conscience de la minutie avec laquelle ces travaux sont menés par des équipes qui viennent chercher les gens, que ce soit des publics non-voyants, que ce soit des femmes en voie d'alphabétisation, que ce soit vraiment dans toutes sortes de groupes qui sont menés avec une minutie totale et où des équipes de conférenciers et de médiateurs vont chercher les gens quasiment un par un en leur tendant la main.
Il n'y a que comme ça.
Et en fait, ce travail-là n'est pas une question de politique de foule, n'est pas question d'une question de billetterie et d'énormes moyens. C'est vraiment une mobilisation humaine dans laquelle des humains vont chercher d'autres humains un par un.
Oui, mais c'est pour ça.
Et c'était le Louvre-Lens, combien
le Louvre-Lens, c'est ça aussi.
Oui, mais
c'est
pourquoi je crois que c'est pas une affaire de collection, c'est une affaire d'individus. Ouais, qui dirige le musée,
absolument.
Qui dirige
c'est faire beaucoup confiance aux individus. La question,
c'est
comment.
C'est
la réalité, mais si de fait il y a une obligation ou il y a une structure publique qui chapote ce principe de circulation et qui oblige les institutions à le faire, du coup, on n'a plus à compter sur des
guitos
à
taux
pour.
Oui,
enfin,
mais sauf que tout ce qui est coercitif sera fait bien ou pas bien, selon, encore une fois, les gens qui devront appliquer les obligations. On en reviendra quand même, malgré tout, toujours, s'il y a quelqu'un qui est formidable dans un centre d'art, dans une galerie, il y aura une action qui sera faite. Mais c'est valable dans le domaine des arts plastiques, comme c'est le cas dans d'autres domaines. Je ne crois pas que ce soit la question des collections. Vous insistiez là-dessus, Annaëlle. Je pense qu'à Strasbourg, à Lille, à Rouen, des collections.
Tout à fait, mais j'insistais là-dessus pour dire que... J'insistais là-dessus pour dire que ce qui compte, en effet, c'est les moyens humains et c'est la manière dont les choses sont faites. Ça passe aussi parfois par des déplacements de conférenciers ou de médiateurs dans des centres d'accueil ou dans des centres pour aller voir les visiteurs une première fois chez eux et ensuite les faire venir au musée dans un deuxième temps. Ce que je veux dire, c'est que la circulation des œuvres, c'est plus large que la circulation des œuvres en elle-même.
Ouais, mais
là, c'est un héritage aussi. C'est vraiment un héritage à Grenoble de justement de ce qu'a fait ce conservateur. Je crois aussi que pendant la guerre, je me demande si Peggy Guggenheim n'avait pas laissé sa collection au musée de Grenoble, c'est-à-dire qu'on leur faisait
vraiment confiance.
Oui, juste avant de partir pour les États-Unis, elle pouvait pas tout emporter. Partait avec Max Ernst, et je crois qu'il y a un lien avec Grenoble,
Lien avec Grenoble. Mais alors, dans les autres musées, parce qu'on a évoqué cette idée d'offrir une entrée aux gens qui viennent voir les expositions hors les murs, c'est peut-être ça aussi qu'il faut répandre comme idée.
Vous voyez, on parlait justement dans une émission précédente, je crois que c'était avec Corinne Rondeau, et on parlait toutes les deux de... le nom m'échappe tout d'un coup de ce qui se fait actuellement, je crois que c'était à Sevran.
La microfolie.
Les microfolies de Sevran.
Ça, c'est des iPads.
Voilà, c'est des iPads, mais au moins, on se disait que si au moins c'était un début pour autre chose, et justement pour prendre la main prendre les gens par la main pour les aider justement à franchir ce fossé qui sépare la banlieue de Paris pour les amener dans les vrais musées, que ça soit au moins un début, quoi.
Il y a plein de façons d'y arriver. Ouais. Mais la question est toujours la même.
Comment peut...
Pardon ? Comment ?
Comment être en présence des œuvres ?
C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut fermer les portes du petit salon, Lucille ?
Et
vous, passez les clés à Xavier Martinet, hein, qui sera là dès demain pour suppléer, jamais remplacer. Lucie.
Pour tenir le salon, c'est vraiment...
Pour tenir le petit salon, c'est d'accord. Ça. Allez, on va sortir des frontières encore une fois, direction Athènes, pour commencer comme c'est chic, Anaëlle Pigeon. Vous nous emmenez à Athènes. Enfin, on peut venir ou comment ça se passe ?
Non, vous en revenez, évidemment. Non, je vous emmène. Je voulais y retourner, d'ailleurs.
Très bien.
J'avais déjà vu des tableaux de Marie Lasnik, mais en fait, je ne les avais pas vus.
Moi, j'ignorais ce nom, donc vous allez tout me dire.
Je les ai vraiment vus pour la première fois, réellement, dans cette exposition qui est faite en marge de la Documenta, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, cette grande manifestation d'art contemporain qui a lieu tous les 5 ans, d'habitude à Kassel, en Allemagne, et cette année, en plus, à Athènes. Cette artiste, Marie Lasnik, en fait, est assez connue, même si j'ai découvert aussi son existence relativement récemment, il y a quelques années. Elle a reçu en 2013 le Lion d'or de la Biennale de Venise pour toute sa carrière. Elle a eu une grande exposition à Londres, par exemple à la Serpentine Gallery en 2008. Là, l'exposition est faite par Anne-Sulrich Schobrist et Denis Zakharopoulos, qui est le directeur de la Galerie municipale d'Athènes. Et en fait, c'est une sorte d'introduction plus ou moins volontaire à la Documenta, une sorte de centre de gravité par rapport à cette manifestation qui s'appelle Learning from Athènes, donc apprendre d'Athènes. Là, je parle de la Documenta. Au fond, l'exposition de Marie Lasnik présente l'œuvre d'une femme qui est née en 1919 et qui est morte en 2004. Très âgée, qui, en Autriche, elle est née en Autriche, qui a vécu à Paris dans les années 60, à New York dans les années 80, ensuite qui est retournée à Vienne, et qui, au cours de son existence, a fait de nombreux voyages en Grèce. Elle est peintre, et elle montre une série, enfin, cette exposition montre une série d'aquarelles et quelques tableaux qui montrent des images de la mythologie, mais de manière extraordinairement personnelle. Alors, il y a une première chose, c'est le plaisir que l'on éprouve à voir, je crois, le plaisir qu'elle a eu, elle, à faire ces tableaux et à traduire les couleurs de la lumière du soleil à midi sur la mer des îles grecques. Elle allait apparemment chaque fois dans une île différente. Donc ça, c'est une première chose qui est totalement éblouissante. Mais il y a plus que ça, c'est-à-dire que, au fond, elle réinterprète la mythologie chaque fois en faisant des autoportraits. Toute son œuvre, en fait, est une sorte de grand autoportrait. Atlas, c'est elle. Europe et le taureau, c'est elle. Aphrodite, c'est elle aussi. Et en fait, elle interroge aussi cette position de la femme, toujours sans jamais rentrer dans aucune case, puisqu'elle a traversé tout, traversé le surréalisme, elle a traversé l'art informel, elle a traversé le mouvement actionniste à Vienne. Jamais elle ne se laisse approcher vraiment par ces catégories, mais elle y rentre. Elle oscille entre une sorte de figuration et une forme d'abstraction qui sont toujours d'une immense liberté. Et finalement, c'est une sorte de femme très discrète, mais très combative, qui, sans être féministe, parle d'une conscience du corps et qui laisse penser, qui est adorée de jeunes artistes, que je ne citerai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais qui finalement n'a jamais été prise au sérieux comme tous les jeunes hommes de sa génération l'ont été, et qui peut-être, dont la redécouverte aujourd'hui, laisse peut-être penser que... On dirait un jour qu'il y a eu autant d'hommes que de femmes, grands artistes dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire récente.
Marie Lasnik, cette exposition, pour l'instant, elle est à la Galerie municipale d'Athènes. Elle y est jusqu'au 16 juillet. Peut-être donnera des idées, faire des expositions qui lui seront consacrées plus proches de nous.
Exactement.
Yasmine, il y a aussi un livre. Vous en avez la bonne habitude, un livre de Guillaume Beaune.
Oui, j'ai choisi de vous parler d'un tout petit livre qui ressemble à un cahier. Je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains,
non.
Arnaud, qui appartient à une collection, une très jolie collection qui s'appelle Portrait de ville, et pour laquelle on confie à un photographe donc le soin de dresser le portrait d'une des villes du monde. Il y a beaucoup de photographes que j'aime beaucoup, comme Frédéric Lebin qui a fait le portrait de Tokyo, Olivier Amsalem qui a fait le portrait de Marseille, Harry Gruyert que j'adore aussi, qui lui a fait le portrait de Moscou. Mais de tous, moi j'ai choisi de parler du livre de photos de Guillaume Beaune sur Addis Abeba pour des raisons purement égoïstes, je dois le dire.
C'est pas votre genre.
Non, c'est pas mon genre parce que j'ai vécu.
Vous aimez pas vous faire plaisir.
Ouais. J'ai vécu à Addis Abeba pendant 2 ans, dans les années 80, et j'ai laissé la ville entre les mains du général Mengistu et de son régime marxiste-léniniste, sa dictature militaire marxiste-léniniste.
Vous avez capitulé, vous voulez dire.
Voilà, et je voulais savoir, j'avais très envie de savoir ce qu'elle était devenue.
Sans vous.
a-t-elle survécu?
Oui.
Et puis surtout, parce que s'il y a bien une ville que les gens ne connaissent pas, c'est Addis Abeba, pour une raison très simple, pour plusieurs raisons, mais une qui est très simple, c'est que c'est une ville qui n'a jamais été colonisée. 4 ans à peine par Mussolini, mais c'est allé très vite. Vous savez, il y a ces images d'Haïlé Selassie quand il va à la tribune de la SDN à Genève pour dénoncer cette colonisation. Donc déjà, il n'y a pas de lien avec d'autres pays. Et puis après le coup d'état de Mengistu, la mort de Haïlé Selassie, elle est restée fermée au reste du monde pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on apprend que c'est l'une des villes qui connaît les plus fortes croissances dans le monde. Et les photos de Guillaume Bonne, finalement, racontent tout ça. Une nostalgie pour l'empire d'Haïlé Selassie, qui représente encore la splendeur de l'Éthiopie. C'était le 225e descendant d'une lignée qui remontait à la reine de Saba. Il y a aussi le fait que la ville n'a jamais été colonisée. Du coup, d'un point de vue urbanistique, elle ne ressemble à aucune autre ville africaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment administratif, pas d'avenue droite, pas de réseau de canalisation, comme le dit Marianne Fitzgerald dans sa préface. Et ça, Guillaume Bonne le traduit très bien. Par exemple, moi je me souviens, on avait toujours des problèmes pour se ravitailler en eau, il y avait des empilements de bouteilles d'eau, il le montre vraiment très très bien. Et puis la croissance forte, tout d'un coup on voit la ville se transformer avec des immeubles en verre, avec des autoroutes, et petit à petit elle commence à ressembler à ces villes d'Afrique du Sud, à ces autres grandes mégalopoles. Et là on voit la ville petit à petit changer, et il nous montre tout ça à merveille à travers des photos carrées aux couleurs passé, qui alterne des vues urbaines et des détails historiques. Voilà, il y a une nostalgie.
Vous y retournez quand?
Très vite, j'espère.
Bon, et il m'en a donné envie. Vous le raconterez.
Ouais.
Addis Abeba, c'est le livre de Guillaume Bonne aux éditions Bipôle.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute, Afrique-Lille, cette fois pour la deuxième étape deuxième étape d'Afrique capitale. Commissaire toujours Simon Djami, comme à la Villette, c'est sous-titré cette fois vers le Cap de Bonne-Espérance, une exposition présentée à la gare Saint-Sauveur sous l'égide de Lille 3000, qui nous fait découvrir une trentaine d'artistes contemporains, essentiellement, ai-je lu, de la jeune génération. Alors, on prend le train et on va très très vite, train à grande vitesse pour Lille, arrivé à Gare Saint-Sauveur, Anaël Pijat, c'est vous qui commencez forcément, on sait bien que Didier Fusillé, co-fondateur de Lille 3000, dirige la Villette, donc le lien est assez simple pour savoir pourquoi il y a une exposition qui porte le même titre dans les deux villes. Mais alors, quelle différence, pour aller vite, entre l'exposition de Lille et celle de Paris, Anaëlle?
Deux expositions. Simon Djami parle de stéréo. Évidemment, il y a des échos. Il y a une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'artistes qui se retrouvent dans l'exposition de Lille, quelques œuvres aussi qu'on retrouve.
Ah oui.
Mais ces deux volets qui sont quand même assez différents, ils proposent le thème du voyage pour l'exposition de Saint-Sauveur. Alors, c'est évidemment pas un voyage au premier degré, c'est un voyage intérieur et c'est aussi un voyage vers l'enfer. Avant cela, je trouve qu'il y a aussi dans cette exposition de Lille, avant de revenir là-dessus, il y a aussi dans cette exposition de Lille des œuvres de très grand format, disons, qui ont un côté plus interactif, plus ludique, presque plus, qui a une dimension plus de carnaval que dans l'exposition parisienne. Je pense par exemple à l'œuvre de Moataz Nasr, dans laquelle on doit monter sur un grand escalier qui rappelle une pyramide égyptienne, et on a des ailes dans le dos qui sont les ailes du drapeau égyptien, et on se sent pousser des ailes. Bon, c'est les printemps arabes qui n'ont pas vraiment été, qui ne l'ont pas vraiment été. Voilà, enfin, il y a une sorte de grand Rubik's Cube au début de l'exposition de Modou Peola Fadoukba, auquel on est invité avec lequel on est invité à interagir. Cette chose-là, moi, m'a moins intéressée. Enfin, ces aspects-là m'ont moins intéressée. En revanche, cette question du voyage et du voyage intérieur et du voyage vers l'enfer, elle est tout à fait intéressante et elle est traitée de manière très glaçante. Il y a une scénographie que là j'ai trouvé par contre un petit peu littérale. Il y a une série de wagons de trains dans lesquels on voit des vidéos. Bon, mais c'est pas grave. On retrouve la vidéo crossing magnifique de Leïla Alaoui sur les migrants. La question du voyage, là, pas besoin de le préciser. Il y a aussi une très belle œuvre sur cette. Je reviens toujours à la question de la violence de Pélagique Baghouidi, qui est à l'extérieur, en fait, donc on se trouve dans une halle de chemin de fer, deux ont été rasés, c'est là que se trouve l'œuvre de Pélagie Gbagouidi. Il s'agit, en fait, d'une série d'hôtels, de petits monticules de cailloux qu'elle a apportés, avec lesquels elle a construit ce qui ressemble à la fois à des collines et à des tombes. Et c'est une œuvre qu'elle a pensée à l'occasion d'une résidence en Afrique du Sud, pays ô combien violent, on le sait. Et on peut imaginer, je trouve, qu'au fond, dans cette œuvre qui est très humble et qui se trouve à l'extérieur de l'exposition, comme ça, dans une sorte de cour presque, hein, pourrait au fond résumer l'esprit de cette exposition et être un hommage à tous ces morts, peut-être. Il y a une gravité là qui contraste avec d'autres aspects de l'exposition, mais que j'ai trouvé assez forte.
Yasmine aussi, sur l'expo à la Gare Saint-Sauveur à Lille.
Mais écoutez, moi je l'ai trouvé très complémentaire de l'exposition parisienne. C'est pas à Paris on vous montre des grands trucs et à Lille on vous montre les rogatons. Bien au contraire. Alors bien sûr, il y a des œuvres qui sont communes et ce n'est pas gênant parce que j'imagine que c'est pas tous les spectateurs de Lille, tous les visiteurs de Lille qui vont venir à Paris et vice-versa. Il serait dommage de les priver de ces œuvres-là. La question du voyage, et puis elle est construite aussi, c'est le même esprit qu'à Paris, c'est-à-dire avec des grands noms. À Paris, on avait William Kentridge, là on a Elena Tsui, des artistes qui montent comme Mouataz Nasr ou bien Nicolas Lobo. Et puis, il y a ceux qu'on découvre, vraiment, qui sont fabuleux, ceux-là aussi. La thématique du voyage, je la trouve très intéressante, et surtout quand il s'agit, non pas de voyage tel qu'on pourrait le concevoir ici en Occident, des grands voyages. Là, c'est dans les petits voyages du quotidien. Tout à l'heure, Anaël parlait de violence. Il y a une vidéo, justement, qui est présentée dans l'un de ces wagons, qui dit toute la violence de l'Algérie quand Amina Zoubir monte avec une caméra dans un bus en 2006. On est finalement pas très longtemps après la guerre civile qui a ravagé le pays. Et c'est un condensé de la société algérienne. Pendant tout le trajet, on sent le malaise, on sent la domination masculine. Ce sont les hommes qui regardent, ce sont les hommes qui la prennent de haut, ce sont les hommes qui prennent l'espace. On sent aussi la guerre civile donc qui est pas loin. Et ça dit, en quelques minutes, ça dit vraiment toute cette ambiance, tout ce que traverse ce pays-là en ce moment. Il faut prendre les œuvres, ne jamais les prendre de manière littérale. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est que il y a tout de suite, il y a ce premier contact avec l'œuvre qui se fait immédiatement. Hein. Il y a vraiment le premier rapport et l'œuvre tout de suite vous parle. Et puis, il y a tous les sous-textes derrière, il y a tout ce que les sous-thèmes, mais vraiment d'autres thèmes qui se dégagent. Je pense par exemple à cette immense installation sur 22 mètres carrés de la ville de Meshach Gaba. C'est une ville en sucre où vous avez aussi bien, c'est une mégalopole avec tous les grands monuments du monde, hein, que ça soit la Maison Blanche, que ça soit l'Arc de Triomphe, le Taj Mahal. Et derrière, quand vous pensez au sucre, ça vous renvoie forcément aux esclaves. Ça vous renvoie à cette lutte, justement, à ce voyage forcé pour aller couper de la canne à sucre. Et c'est souvent comme ça. Il y a un voyage en nostalgie avec l'Angolais Delio Jas qui photographie les gens qui se meuvent dans la ville au cyanotype, cette technique photographique ancienne avec qui donne des photos de couleur bleue. Voilà, c'est ce voyage au quotidien, moi, qui m'a beaucoup plu. Je voudrais juste parler d'un coup de cœur.
Juste après Anaëlle, qui vous ajoutait.
Vous disiez, Yasmine, qu'il ne faut pas prendre les choses au premier degré, évidemment. Et il y a beaucoup d'ironie dans beaucoup de ses œuvres, oui, je trouve. Par exemple, dans les tableaux de Gopal Danyogo.
C'était mon coup de
cœur. C'était votre coup de cœur.
Oui. Ah, ben voilà, c'est tant bien. Comme il reste 1 minute 40, ça va très bien. Allez-y, partagez.
Un dîner de volaille, un dîner de poulet avec des bouillons, sont des tableaux avec des bouillons magie. Dedans, les poulets, on ne sait pas qui c'est, qui mange qui, ouais, qui instrumentalise qui. C'est en fait une grande perversion et c'est assez réjouissant. Et en fait, je trouve qu'il y a dans cette exposition une déconstruction de beaucoup de clichés, oui, aussi. Par exemple, avec le salon de Hassan Hajjaj. Oui. En fait, il y a cet hôtel Europa habituellement dans la gare Saint-Sauveur qui là est transformé en hôtel Africa. Il y a une série de chambres confiées à des artistes, dont un petit salon fait par Hassan Hajjaj, qui est, en fait, je trouve plus visible qu'à Paris, parce qu'à Paris aussi, il fait le salon d'introduction de l'exposition. Il utilise sur les murs ces tissus en plastique tissés. Peut-être peut-on rappeler que c'est l'artiste qui a fait un partenariat avec des marques, une marque de baskets, de chaussures de sport fort connue.
On a le choix comme ça.
Qui utilise le même tissu en plastique tissé avec sous les semelles le portrait d'un couple, une femme voilée, un homme qui porte une sorte de turban sur la tête. Tout ça est d'une violence extrême en fait. Et c'est vraiment retourner un à un tous les clichés qui parlent de l'Afrique.
30 secondes,
Yacine. 30 secondes sur la vidéo. Je voudrais finir sur Hassan Hajjaj qui m'a fait prendre... Il y a une vidéo de Hassan Hajjaj où il fait poser, en fait, devant des tapis, des tentures en plastique, les petits marchands, les petits vendeurs de la plage Amelfna à Marrakech. Et moi, ce qui m'a, vraiment, je l'ai reçu comme un coup de poing à l'estomac, c'est la disparition des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont là, mais comparées aux femmes que moi j'ai connues dans mon enfance, elles sont voilées, ce qui n'était pas le cas avant, comme les gens du Golfe, dans des habits, c'est plus les habits traditionnels de la djellaba, c'est juste une espèce de truc informe qui ne veut plus rien dire, et les femmes disparaissent petit à petit, on ne voit plus rien, elles ne sont plus que là pour vendre, c'est comme s'il n'y avait plus d'humains derrière, ça m'a tétanisée, je m'en étais pas rendu compte avant de voir, avant à ce point, je le percevais, mais je ne l'avais pas vu comme ça à ce point.
Afrique capitale vers le Cap de Bonne-Espérance, c'est le titre de l'étape lilloise ou de la déclinaison lilloise ou de la stéréo lilloise de cette grande exposition Afrique Capitale. Donc c'est avec l'île 3000 et la gare Saint-Sauveur jusqu'au 3 septembre. Et puis il y a un catalogue qui regroupe pour le coup les deux expositions, ce qui est bien normal, qui est paru chez Kerrer. Et avant de conclure l'émission, tout à fait, le jeu de la dispute et un rappel du jeu d'hier au soir. D'abord, Lucille Comeau, question-réponse.
Dans les années 30, toute la France se passionne pour une empoisonneuse parricide. Qui est-elle? Et la réponse est Violette Nozière.
Ce soir, cinéma, le film Taipei Story, des places à gagner. Ce film d'Edouard Diang, dont on a parlé hier. La question?
Le héros du film est interprété par un réalisateur taïwanais qui, la même année, en 85, a lui-même signé un film intitulé Un temps pour vivre, un temps pour mourir. De qui s'agit-il?
Votre réponse? Ça, c'est que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et à bientôt, chère Lucille Comeau.
À bientôt.
Vous allez nous manquer, vous allez me manquer. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions via ce site. Demain, une dispute consacrée à la musique avec Olivier Lam et Christophe Comte. À notre affiche, nous parlerons de Jamaïca, l'exposition à la Philharmonie de Paris. Nous parlerons du disque, le nouveau disque de Wire, Silver Led, sorti chez Pink Floyd, et celui de Malik Judy, paru lui à la Souterraine. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.